Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio. Cuisine ton quartier.
Cuisine teu bairro.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh hayy.
Cuisine quartier.
Cuisine nel tuo quartiere.
Et matbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Atsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre.
Bonjour, je m'appelle Camille Courrier. Bienvenue dans la balade cuisine ton quartier.
Oui, ben bonjour Camille, on est content de te recevoir ici. Dis-moi, tu as fait un projet qui s'appelle Ombre d'exil. En 2019 et 20. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et par la même occasion de ta démarche artistique?
Oui, alors ça part d'une pratique du dessin en très grand format, au départ de tout, et du dessin fait en collectif, du dessin qu'on fait à plusieurs, notamment pour le théâtre, que j'ai pratiqué pendant des années. Et puis, à partir de cette pratique du dessin en très grand format, ça a développé des manières de faire des ateliers et du dessin en collectif, et en particulier avec au début avec des enfants en parcours d'exil à Paris, et puis ensuite avec des adultes à Montréal. Et ça s'est devenu le cœur de ma recherche de thèse. J'ai commencé une thèse en recherche création à l'UQAM en 2015, et au fur et à mesure de l'avancée de cette thèse sur le dessin, il s'est avéré que le motif de l'exil était au cœur, et il était associé au motif de l'ombre portée, de l'ombre qu'on emmène avec soi partout, comme une image du corps qui est à la fois plus et moins forte que le corps lui-même. Voilà, donc le projet Ombre d'exil, il a commencé à Paris, il s'est poursuivi à Montréal en prenant la forme de participer en fait à la consultation sur le racisme systémique en 2019 avec un organisme qui s'appelle le CRIC. En fait, j'ai fait des ateliers de dessin avec eux pour que les participants et participantes répondent à cette consultation en dessinant. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai continué vraiment, c'est devenu le cœur de mon doctorat, et j'ai continué avec Petite Main. Et là, j'ai rencontré notamment une interlocutrice à Petite Main qui dirigeait la formation au Québec Chacune sa place. Et là, j'ai rencontré plusieurs femmes qui étaient en parcours d'exil arrivées à Montréal plus ou moins récemment, avec des parcours très divers. Des parcours quelquefois très traumatiques, des parcours quelquefois très aventureux, des femmes plutôt très combatives dans l'ensemble. Et en fait, ces femmes, on a commencé à dessiner avec elles. Je leur ai proposé de dessiner en grand format, comme moi je pratiquais avec la peinture et le dessin scénographique. J'ai partagé mes manières de faire du dessin avec elles, et ça allait de dessiner au fusain de manière très traditionnelle jusqu'à faire du dessin par captation de mouvement, donc avec des capteurs sur l'ensemble du corps, et dessiner toujours avec l'ensemble du corps en collectif. Et l'idée de mon doctorat, ça travaille vraiment sur des questions micropolitiques, de qu'est-ce qui se passe quand on dessine en groupe comme ça et qu'on est dans une situation d'exil, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui émerge. Si je peux résumer 5 ans de recherche doctorat, c'est ça. Voilà.
Comment les femmes venues de plusieurs endroits dans le monde acceptent ça, faire mettre des capteurs sur le corps, de comprendre toute cette technologie associée. C'est vraiment un voyage en soi, j'imagine, pour les femmes que tu rencontres.
C'était très drôle parce que il y avait des femmes de générations différentes. Il y avait évidemment des femmes qui venaient du monde entier. Et a priori, on se dit que les femmes plus âgées vont avoir plus de mal avec la technologie, notamment de captation de mouvement. C'est pas du tout le cas. C'est toujours très étonnant. Et en particulier, je pense à, parmi les participantes, une femme qui s'appelle toujours Radija, qui était étonnante parce qu'elle a vraiment embarqué dans la captation de mouvement. Elle a toujours les robes marocaines traditionnelles très longues. Et en fait, ça a été une des premières à, il faut enfiler tout un suit avec les capteurs pour pouvoir dessiner par captation de mouvement. Elle, non seulement elle a embarqué dans le dessin scénographique avec les grandes brosses et l'outillage assez compliqué, mais en plus de ça, elle a embarqué dans la captation de mouvement en enfilant les, disons, tout l'équipement de captation de mouvement de manière vraiment spontanée. Le rapport à la technologie était extrêmement étonnant. Et le fait de passer de médium de dessin très traditionnel à des médiums de dessin très contemporains, ça a permis aux femmes de ne pas se focaliser sur le fait de savoir dessiner ou pas savoir dessiner. Elles se sont focalisées sur ce qui se produisait et sans juger d'un point de vue esthétique ce qu'elles pouvaient être en train de produire.
En réalité, c'est du mouvement. C'est habiter son corps comme on veut réhabiliter un nouveau territoire, finalement. C'est être ici, dans cet espace présent. C'est aussi ça que tu leur fais ressentir, j'imagine.
Tout à fait. C'est vraiment que dans le dessin, ce qui importe, c'est le geste, avant toute autre forme de dessin. Et donc, de ne pas se regarder dessiner, mais d'agir le dessin. Le grand format permet ça. Le fait de les inviter à dessiner au sol aussi, parce qu'en fait, on dessinait leurs ombres portées d'abord sur les murs, en duo, chacune dessinant une autre en binôme. Et ensuite, on passait à des ombres portées au sol. Ça permettait aux participantes, aux ateliers, de sortir complètement d'un jugement par rapport à ce qu'elles elles pouvaient produire ou par rapport à leur niveau supposé ou réel en dessin. Elles étaient dans d'autres considérations, dans des considérations qui sont effectivement de l'ordre d'habiter, beaucoup plus que de représenter.
Qu'est-ce que tu conserves autant d'une manière physique que morale de cette expérience de création? Est-ce qu'il y a une exposition de ça? Est-ce qu'on peut voir le résultat de ça? Et qu'est-ce que tu en conserves, toi, comme artiste?
Pour l'instant, ça va être sur mon site web assez rapidement. Évidemment, dans le mémoire de thèse, s'il y a une publication qui est liée à ça, je suis en train de faire quelque chose qui est vraiment autant un livre écrit qu'un livre dessiné pour ma thèse. Donc, ça va prendre d'abord cette forme-là. Pour le moment, on en est là. Et puis, j'ai un projet ici aussi avec un organisme qui s'appelle l'Atelier des artistes en exil à Paris, qui là serait plus lié à une restitution où je ferais de nouveau un cycle d'ateliers. Sauf que les personnes qui sont connectées par cet organisme à Paris sont exclusivement des artistes qui doivent retrouver une continuité. Alors que jusqu'ici, les ateliers de dessin que j'ai fait à Montréal, ils étaient avec des personnes qui viennent vraiment de tous horizons, qui ne sont pas des artistes nécessairement.
Qu'est-ce qui t'a fait, à la base, t'intéresser à l'exil?
La base de tout, c'est la question de l'invisibilisation. C'est la question dans la sphère publique. C'est pour ça que je travaille avec le motif de l'ombre portée, en fait. Je suis partie d'une phrase d'Anna Arendt qui dit, elle, quand elle a vécu l'expérience de devoir s'exiler d'Allemagne, elle dit, les réfugiés, les déplacés comme moi, on est tenus de devenir des ombres. On est assignés au fait de devenir des ombres. J'ai creusé à partir de cette idée. L'idée, c'est que j'avais, moi, l'expérience d'avoir vécu à l'étranger, qui est une expérience d'exil, mais qui n'a rien à voir avec les vécus que je rencontrais ici à Paris, puis que j'ai rencontré à Montréal. Et j'essayais de trouver, entre cette notion d'invisibilisation sociopolitique que vivent les personnes exilées et la dimension extrêmement riche de l'exil, du fait d'être capable de s'installer dans une société autre que la sienne, déjà d'avoir cette curiosité-là, et d'avoir la capacité, en fait, à voisiner avec des gens qui sont extrêmement divers. On le fait de force quand on est obligé de partir de chez soi, mais je pense que ce serait vraiment important qu'on arrive à le faire par choix, à la fois quand on est la personne qui accueille, et à la fois quand on est la personne qui bouge. Qu'on soit obligé de bouger ou pas, en fait. C'était ça la première raison. Et puis le deuxième motif vraiment qui a fait que j'ai consacré ma thèse au dessin et à l'exil, c'est que on présente tout le temps les exilés comme des gens qui sont écrasés, qui sont défaits, notamment d'un point de vue médiatique. Et je trouvais que c'était génial de pouvoir utiliser le dessin pour montrer une image de gens qui ne sont pas ça, en fait. Qui sont des gens qui, justement, sont combattifs, notamment les femmes qui s'exhibent, qui risquent beaucoup plus gros que les hommes en général. Enfin, qui risquent des choses qui sont souvent beaucoup plus graves, même si, pour tout le monde, c'est risqué, hein. Mais que je voulais montrer la dimension comme ça de combativité. Et je trouve qu'on ne la voit pas médiatiquement. On ne la voit pas dans les espaces publics. Ces personnes qui minent sont présentées comme des gens qui sont, défaits par l'existence, dégoûtés de tout, en fait. Et je pense qu'en tout cas, dans les espaces publics de nos villes, il y a un travail à faire sur les représentations, que ce soit en dessin, que ce soit en photo, que ce soit pour changer et pour montrer toute la dimension qui est beaucoup plus réelle que le reste, la dimension politique de cette combativité. Et moi, j'ai travaillé sur la dimension micropolitique des toutes petites choses qu'on peut faire, qui en fait ont des conséquences immenses. Et en face de ça, la pompe politique d'accueil au niveau macro. Voilà, c'est tout le temps ce jeu. Et dans le dessin en grand format, on peut investir à la fois des espaces publics. On n'est pas tenu de rester dans des dimensions privées du dessin. Et on peut accueillir des participants qui viennent de tous horizons parce que il n'y a pas le problème de savoir parler français ou pas. On dessine, on dessine. Et puis, tout le monde a un accès au dessin, en fait.
Puis, tu es une artiste française, tu as exposé dans plusieurs pays dans le monde, mais tu es venue au Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué de particulier chez nous, soit dans la manière dont on intègre les nouveaux arrivants ou de comment ça se passe ici? Est-ce qu'il y a eu une observation, disons, différente ou particulière de ta part en venant travailler ici?
Par rapport aux autres pays où vous avez vécu, ça me paraissait au début très facile dans la mesure où j'avais l'impression qu'on avait une langue commune. En fait, je me suis aperçue en enseignant et en étudiant qu'en fait, il y avait vraiment un français du Québec et je l'ai découvert notamment par la langue écrite des étudiants. Et donc là, il a fallu que je me forme à ça parce que j'avais le côté la langue française, c'est la langue française de France. Et du coup, ça a été quelque chose de très important parce que les Québécois attachent une très grande importance à la manière dont ils parlent la langue française et dont ils ont créé leur propre rapport à la langue française et une élaboration à partir de vraiment eux-mêmes. Donc ça a été une chose qui a été très importante, cette espèce d'illusion que ça allait être facile. En fait, c'était pas du tout aussi facile que ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la dimension de pouvoir voir des gens dans la ville de Montréal qui viennent du monde entier tous les jours de ma vie. C'est le cas aussi à Paris, hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore, un panorama comme ça de gens qui viennent de partout, en permanence, avec des langues très différentes dans le même parc. Ça, je trouve que c'est absolument un laboratoire de ce qui peut se passer dans l'avenir. Et après, dans les choses moins positives, j'ai trouvé qu'il y avait souvent les Québécois avaient souvent l'impression qu'ils accueillaient très bien les étrangers. Et c'est pas du tout le cas, en tout cas pas plus qu'ailleurs. Enfin, je trouve que les replis communautaires ou disons le complexe de supériorité qu'on a parce qu'on vit dans un endroit depuis plus longtemps que les autres, ils sont un peu pareils que partout, en fait. J'ai vu les mêmes quand je vivais en Égypte, j'ai vu les mêmes quand je vivais en France, j'ai vu les mêmes en Espagne. C'est-à-dire cette espèce de manière de croire que parce qu'on est installé depuis 10 ans plus que quelqu'un d'autre, on a une légitimité. Voilà, là où j'ai été choquée, c'est par rapport à la visibilité des autochtones. Ça a été mon grand choc et ça a été en fait ce qui a un peu hanté ma vie à Montréal, c'est cette espèce de disparition en fait des Premières Nations. Avec la vie dans les réserves et à Montréal notamment, les Inuits que je voyais, je les voyais que mangeant dans le métro. Je les voyais jamais à la télé, je les voyais jamais au théâtre.
Merci.
En gros.
On a interviewé Nicole de ton projet Ombre d'exil avec les petites mains. Est-ce que Nicole, tu as gardé contact avec elle? Comment ça s'est passé avec elle et comment vous gardez contact ensemble?
À l'issue de l'atelier qu'on avait fait, j'ai mon carnet de notes des ateliers, en fait, mon carnet de pratique pour la thèse et pour la création. Nicole avait dit, à l'issue de l'atelier, elle avait dit « Je me suis sentie bien en dessinant ». Puis j'ai relu ça parmi les commentaires des 13 femmes qui étaient là. Et ensuite, en fait, on a gardé le contact via Petite Main. Et au moment où on s'est parlé des entretiens avec Catherine, j'ai repensé à plusieurs femmes qui avaient vraiment embarqué dans le dessin. Et j'ai renvoyé un courrier à la Petite Main. Il y en avait dont j'avais les contacts directs et une fois j'avais pas son téléphone. Et donc, je dis, si vous avez la possibilité de les joindre, moi, j'aimerais vraiment recontacter. Il y avait Gulsha, une afghane, il y avait Nicole, il y avait en fait une dizaine de femmes vraiment avec qui il y avait un contact où ça s'était bien passé. Abla, aussi une marocaine extraordinaire. Elle m'a dit, non, je peux pas vous donner leur contact. En revanche, je peux leur envoyer un courriel et leur dire que vous voulez les joindre pour prolonger les ateliers par un autre projet. Et là, c'est Nicole qui m'a rappelé. C'est Nicole qui m'a rappelé en me disant, mais je me souviens, c'était super. Enfin, je suis partante pour l'expo. S'il y a un prolongement, balado ou autre, je suis partante. C'est elle qui m'a rappelé.
C'est super. Puis ça me permet d'inviter les gens à écouter la balado de Nicole pour continuer d'en apprendre plus sur l'expérience et sur sa vie. Camille, je vais te poser trois petites questions en dehors de la boîte. Si tu nous invitais à souper chez toi, souper là, dîner, qu'est-ce qu'on mangerait? Qu'est-ce que tu aimerais nous préparer pour qu'on fasse mieux connaissance?
Qu'est-ce que je vous préparerais? Je vous préparerais une soupe égyptienne qui est absolument délicieuse, qui s'appelle Shorbet Adi. C'est juste la soupe de lentilles. C'est une soupe de lentilles corail et on met du citron vert au moment de la servir. Elle est faite avec pas mal d'ail, un peu de carottes, un peu d'oignons. En hiver, en Égypte, on ne croit pas, mais en fait, il fait très froid, notamment dans le désert. Et du coup, ça recompose complètement les individus.
Et puis, si tu avais à quitter la France pour toujours, qu'est-ce que tu penses que tu amènerais avec toi comme objet, en sachant que tu ne peux pas revenir?
Ouais, j'amènerais un carnet de dessin, c'est sûr. J'ai tout le temps le carnet de dessin en cours, donc j'amènerai celui que je suis en train de... J'amènerai pas ceux qui sont déjà remplis, mais j'amènerai celui qui est en cours de remplissage, je pense. Mm-hmm.
Super. Merci beaucoup. En terminant, peut-être, en remerciant les gens de leur écoute, peux-tu, nous lancer vers l'avenir avec un souhait pour nous tous humains?
Moi, j'ai un souhait, c'est un peu pour ça que j'ai fait ma paix. J'ai un souhait très cher, qui est, vu les changements climatiques et ce qui est en train de se passer, on va être obligé de, en tant qu'humain, de cultiver l'art du voisinage. En particulier au Canada, il y a beaucoup de monde qui va arriver, là, c'est sûr, dans les prochaines années. Un peu partout vers le nord, d'ailleurs. Je pense que mon souhait le plus cher, c'est d'arriver moi-même à être une bonne voisine. Et puis qu'on arrive à, comme humain, être des bons voisins. C'est-à-dire, c'est pas être trop proche ou être plein de condescendance ou c'est voisiner. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment être capable de se reconnaître en l'autre d'abord, d'avoir une capacité de se projeter dans les parcours des autres qui bougent, qui sont obligés de bouger souvent, et d'avoir de la curiosité pour leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-vivre, leur savoir-manger, leur savoir-s'habiller. Je trouve ça, ouais, que c'est un bel objectif de se dire qu'on pourrait essayer de voisiner. Disons, c'est pas d'être gentil, c'est d'avoir une certaine ouverture.
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on va apporter avec nous de cet entretien avec toi. Merci beaucoup, Camille. On peut retrouver ton travail et tout ça sur ton site web qui se nomme comment?
www.camille, CAMILE, courrier CAMILE, la infolette, .net.
Excellent. Alors, on va aller découvrir tout ça. Je te remercie beaucoup, puis au plaisir de te recevoir de nouveau au Québec. Je t'invite à manger mon pâté chinois. Allez, salut Camille, je te remercie beaucoup.
Avec plaisir.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.